dans les médias, Gilbert Jourdan n'hésite pas à tenir des propos extrêmement violents à propos des accusés.
Et maintenant, je m'adresse à Richard et à Didier Gentil. Je te garantis, sur la tête de ma fille, que même dans 30 ans, je te crèverai le ventre. Regarde-moi bien, Gentil, regarde-moi bien, Richard. Je te crèverai le ventre.
Pour Joël Roman, le frère de Richard, ces menaces sont plus qu'éprouvantes.
Il y avait quelque chose qui était extrêmement violent, extrêmement haineux, et puis on reçoit ça. On a tous été quand même très, très démolis psychologiquement à ce moment-là, pendant plusieurs mois.
Avant même leur procès, les deux inculpés sont d'ores et déjà condamnés par l'opinion. Pourtant, un homme va bientôt semer le doute dans les esprits. Mardi 26 juillet 1988, La Motte du Caire, un petit village de 450 habitants situé dans les Alpes de Haute-Provence, non loin de Gap. Alors que l'après-midi se termine, Céline, une petite fille, joue sur la place principale. Les gens du coin la connaissent bien. Il s'agit de Céline Jourdan, une fillette de 7 ans qui passe ses vacances chez son père. Gilbert Jourdan tient le seul café de la Motte du Caire. Et comme le village est un endroit paisible, il surveille sa fille d'un œil entre deux clients. Mais en fin de journée, au moment de fermer son café, Gilbert ne voit plus Céline.
Vers les 21h, on a commencé à préparer à manger. Et c'est là qu'on a commencé à se rendre compte que Céline avait disparu. Enfin, elle avait disparu. On ne trouvait pas Céline. On cherche d'un côté, on cherche de l'autre. Mais bon, sans s'affoler, quoi. Sans penser au pire, quoi. Au début, on pensait qu'elle était partie avec une petite son âge, je sais pas, dessous la mairie, ou comme font tous les petits, quoi. Donc on cherche sur la place, on cherche dans la rue, on fait un peu de partout.
Gilbert Jourdan commence à paniquer. Il se met à crier le nom de Céline dans les rues désertes. Il interroge les passants, mais rien. Et la nuit commence à tomber. Au bout d'une heure et demie de recherche, Gilbert Jourdan doit se rendre à l'évidence. Sa fille a disparu. Il est 22h30 lorsqu'il se rend à la gendarmerie pour donner l'alerte.
Les gendarmes, ils ont commencé à chercher comme nous, quoi, à nous poser des questions, savoir où elle était, comment elle était.
Pompiers, gendarmes et volontaires se rejoignent alors et se mettent à la recherche de la fillette. Tout le village se mobilise, à commencer par le maire.
On a fouillé toutes les rues du village, les caves, les andrones, les cages d'escalier, enfin partout où un enfant de 6-7 ans aurait pu se cacher, s'endormir, que sais-je.
Les heures passent et la nuit avance sans qu'aucun des groupes ne retrouve la fillette. Les recherches s'interrompent quelques heures, le temps pour les gendarmes et les volontaires de se reposer un peu.
On se sépare, il était une heure et demie, on suspend les recherches et on va essayer de revenir le plus tôt possible. Nous étions rentrés chacun chez nous, mais personne n'a trouvé le sommeil.
Les habitants prévoient de nouvelles battues pour le lendemain matin. Ils ne le savent pas encore, mais leurs pires craintes vont se confirmer. Le lendemain, mercredi 27 juillet 1988, dès le lever du soleil, les battues reprennent. Toute la campagne environnante est passée au peigne fin.
Nous avons donc organisé les recherches et on s'est dit qu'il n'y a pas 36 solutions. Hein. La vallée n'est pas très large. Donc on va se répartir d'un bout à l'autre de la vallée, presque au coude à coude. Et on va avancer vers l'aval. On est allé jusqu'à presque 11h30, midi. On a fait 4 km. On n'avait rien trouvé. On avait fait chou blanc. Et donc nous sommes partis en sens inverse.
Alors que les recherches se poursuivent, les gendarmes commencent à recueillir les premiers témoignages.
Les gendarmes eux-mêmes étaient presque dans le même état que l'ensemble du village. Ils étaient complètement bouleversés par cette affaire. Donc eux-mêmes, ils ont posé des questions partout en essayant de reconstituer l'itinéraire de la petite fille. C'est la première chose qu'on fait. Où était-elle? Avec qui? À quel moment l'a-t-on vue pour la dernière fois?
C'est alors que les habitants du village vont se souvenir d'avoir vu Céline partir en début de soirée avec un homme, un certain Didier Gentil. C'est un saisonnier qui vit depuis quelques mois dans la région.
Didier Gentil a été très rapidement repéré par les gendarmes parce que plusieurs personnes l'ont vu s'éloigner avec la petite fille.
Ce type part avec la petite à la main et on le croise sur le chemin du village qui s'en va. On note l'heure exacte à laquelle il part et il part avec la petite toute seule.
Certains témoins se souviennent même de l'horaire avec précision, car Didier Gentil leur a demandé l'heure. Il était 20h42, c'était place des Marronniers. Pour les gendarmes, cette information est capitale car c'est la dernière fois que la petite Céline a été vue. Gentil serait-il l'auteur de l'enlèvement de la fillette? Chose incroyable, l'homme n'est pas en fuite. Bien au contraire, il participe aux recherches avec les gendarmes. Il est même l'un des volontaires les plus actifs.
Gentil, il se démène pour rechercher la petite. Il fait partie de ceux qui recherchent.
Il était à côté de moi. Il me disait, monsieur le maire, il faut chercher sur les pentes des collines. C'est peut-être là qu'elle est.
Il est 10h30. Alors que les recherches se poursuivent, Didier Gentil est arrêté. Il est emmené à la gendarmerie de la Motte du Caire pour y être interrogé.
Les gendarmes amènent Didier Gentil en garde à vue dans une atmosphère de grande tension. Mais en fait, il se montre en apparence tout à fait coopérant.
Immédiatement, Didier Gentil va avouer qu'il est l'auteur de l'enlèvement de Céline. Et voici ce qu'il raconte.
Didier Gentil dit qu'il est parti se promener avec Céline, qui lui a proposé de faire une balade, qu'il a remonté la rue, qu'il est arrivé place des Marronniers, qu'il a demandé l'heure à deux jeunes gens, qu'il a poursuivi le chemin, et que là, complètement ivre, il se serait allongé sur elle et qu'il l'aurait violée, qu'il l'aurait laissé là, sur place, et à ce moment-là, serait redescendu sur le village et aurait repris un verre à la terrasse du café.
Didier Gentil aurait donc violé la petite Céline et l'aurait abandonnée vivante la veille au soir. L'urgence pour les gendarmes, c'est maintenant de retrouver la fillette. Seulement, Didier Gentil n'a pas dit toute la vérité. Les recherches se poursuivent dans les environs de la Motte du Caire. Le long du torrent du Grand Vallon, à moins d'un kilomètre du centre du village, un gendarme repère quelque chose au loin. En s'approchant, il se rend compte qu'il s'agit d'une paire de chaussures de petite taille. L'inquiétude grandit et à juste titre.
On a trouvé les deux chaussures là, et c'est là que la gendarmerie a sélectionné ce périmètre. Quoi. Et ils ont filtré les recherches, ils ont retréci le périmètre.
Au bout d'un quart d'heure, nous avons trouvé le cadavre de la petite Céline, dissimulé sous un vieux linoléum sur la berge du Grand Vallon.
Pour tout le monde, c'est un choc. La petite Céline est morte. Elle présente une profonde blessure à la tête. Selon les premières constatations, elle a vraisemblablement subi des violences sexuelles. Une difficile épreuve attend maintenant le maire du village, Marcel Clément. Il doit annoncer la nouvelle au père de Céline.
Pour une mère, c'est quelque chose qui est horrible. Aller dire à un papa, à une maman que leur petite fille a été massacrée, comme ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, quoi.
Inquiet par la réaction du père, le maire décide de se faire accompagner d'un médecin.
Quand le maire est arrivé pour me dire qu'ils avaient retrouvé Céline avec le curé, il est arrivé le docteur derrière, il m'a piqué. Je me suis couché, je me suis réveillé le matin à 8h.
Alors que le père de Céline est sous sédatif, à la gendarmerie, l'interrogatoire de Didier Gentil reprend. Cette fois, les gendarmes exigent de connaître toute la vérité. Didier Gentil explique alors qu'il savait que Céline était morte, mais il refuse d'endosser le crime.
À ce moment-là, il a dit « Le viol, c'est moi, mais le meurtre, c'est pas moi, c'est l'autre. » Ils ont dit « L'autre, c'est qui ?» C'est Richard Roman.
Richard Roman n'est pas n'importe qui. C'est un homme bien connu des villageois. Âgé de 25 ans, ingénieur agronome, il vit dans une ferme isolée à moitié en ruine, à une dizaine de kilomètres de la Motte du Caire. Il héberge Didier Gentil depuis quelque temps. Il serait aussi son amant occasionnel.
Richard Roman, voilà, c'était quelqu'un qui recevait tout le monde chez lui. Tous les trimards, quoi, qui traînaient dans le coin, qui arrivaient, et puis que là-haut, il devait également se consommer de la drogue, quoi.
Les gendarmes décident d'interpeller Richard Roman et d'effectuer une perquisition. Mais leur fouille va s'avérer bien décevante. Un magazine érotique, un pagne taché et quelques grammes de haschich, rien de bien compromettant. Pourtant, les gendarmes sont persuadés que Roman est impliqué dans le crime de Céline. Ils le ramènent au village, sous bonne garde pour interrogatoire.
Les gendarmes sont tous convaincus qu'il est coupable. Ils n'attendent plus qu'un mot avec tout. Si tu avoues, faut t'avouer à moitié pardonné, etc. Ça ne sera pas pareil. Pense aux parents, dans cette petite, tu l'as massacré, etc.
Les enquêteurs n'ont qu'un objectif, faire parler les deux hommes. Didier Gentil signe sans discuter sa déposition. Il reconnaît avoir violé la fillette. Mais il n'en est pas de même pour Richard Roman. Le jeune ingénieur aux cheveux longs nie tout en bloc. Il affirme qu'il n'a ni violé ni tué la petite Céline et qu'il est totalement étranger à cette affaire. Les gendarmes redoublent d'efforts, mais leur manque d'expérience en matière d'affaires criminelles dans ce village de montagne isolé nuit à l'avancement de l'enquête. La justice décide alors de faire appel à la gendarmerie d'Aix-en-Provence, plus expérimentée.
Moi, je me souviens du procureur de la République qui m'avait dit, vous comprenez, on a des gendarmes qui sont habitués à faire des contrôles de vignettes et du jour au lendemain, on leur demande d'enquêter sur la plus grosse affaire criminelle de la décennie. Donc, ils ont été bousculés.
Mais pour les enquêteurs d'Aix, la tâche se montre tout aussi difficile. Richard Roman continue de nier. Il affirme même avoir un alibi. Car le jour de la disparition de Céline, il a reçu, dans sa ferme, la visite de sa mère et de sa cousine.
Elles m'ont raconté ce qu'elles avaient fait, quoi, qu'elles étaient venues, qu'elles avaient dîné avec lui. Et puis qu'au bout d'un certain temps, elles sont rentrées pour se reposer.
Richard Roman affirme qu'ensuite, vers 20h40, il est redescendu au village de la Motte du Caire. Il est resté avec un ami au bar jusqu'à 21h30. Des témoins l'y ont vu. Mais l'alibi de Roman ne convainc pas les gendarmes. Ils sont persuadés qu'il est le complice de Didier Gentil dans le viol et le meurtre de la petite Céline. D'ailleurs, quelques heures plus tard, le suspect va passer aux aveux.
Richard Roman va craquer d'un seul coup.
Il dit « Oui, c'est moi, j'ai tué et j'ai violé Céline au nom de ma mère, de Céline. Je demande pardon à Dieu et à ses parents. »
Nous nous sommes procuré le procès-verbal des aveux de Richard Roman. Et voici comment l'homme décrit les événements de la soirée du crime. Roman explique qu'après son dîner avec sa mère à 20h50, il n'est pas allé au bar directement. En fait, il serait parti à la recherche de son ami Didier Gentil.
C'est en le cherchant dans les rues du village qu'il est tombé sur Didier Gentil qui tenait la gamine à la main.
Arrivé à sa hauteur, je me suis arrêté et Didier a pris place à l'avant, côté passager.
Il met Céline sur ses genoux, il descend dans le chemin Saint-Anne. Ils se garent le long d'un arbre, ils descendent tous les deux et ils vont dans les champs de pommiers, c'est là que les faits se passent.
Richard Roman a dit, on s'est déshabillé, on avait bu, on avait fumé du hache, et quand on a vu la petite, on est devenu fou. Et c'est là où ils expliquent l'un et l'autre qu'ils sont tombés par terre avec la gamine déshabillée, et c'est là où ils l'ont violée l'un et l'autre.
Nous l'avons enlacée. Et comme elle n'a pas eu le temps de se débattre, nous n'avons pas été obligés d'employer la force, ou du moins de la brutaliser.
Richard Roman continue son récit en racontant qu'une fois l'acte terminé, il aurait fracassé le crâne de la petite Céline.
J'ai alors pris une grosse pierre découverte à proximité, et j'ai jeté celle-ci sur la tête de Céline. Ce dernier geste accompli, je me suis sauvé.
Richard Roman finira par signer les 12 feuillets de ses aveux. Les gendarmes sont satisfaits. Ils pensent avoir permis à la vérité d'éclore. Le père de Céline, lui, est effondré, d'autant qu'il connaissait bien les accusés.
On ne s'attendait pas à ça, quoi. Moi, c'était des gens que je connaissais depuis 3 mois qu'on était là. Ils venaient régulièrement au bar. Richard venait boire le café, bon, il faisait souvent des écritures, tout ça, mais je veux dire, il n'y avait jamais un mot plus haut que l'autre, il n'y a jamais eu d'accrochage, jamais rien. Quoi.
Mais chez les proches de Richard Roman, c'est l'incrédulité qui domine.
Bien sûr qu'on pensait que c'était hautement improbable, mais quand même c'était surtout une angoisse incroyable, en espérant que ça ne soit pas vrai, bien sûr.
Personne ne se doute pourtant que cet incroyable feuilleton judiciaire ne fait que commencer. Un feuilleton qui va prendre une ampleur nationale. Quelques heures après la double arrestation, le village de la Motte du Caire, normalement si paisible, est assailli de journalistes. En ce milieu d'été 1988, l'affaire de la petite Céline va faire la une de tous les médias.
Céline a disparu le mardi soir. Le mercredi matin, il y avait déjà RMC, RTL, Europe 1, La Provence, fait tous les journaux, quoi. Et petit à petit, après il est arrivé les télés, après il est arrivé petit à petit, arrivé tout le monde, quoi.
Pour les médias et l'opinion publique, la culpabilité des accusés ne fait aucun doute. Les deux suspects sont même affublés de surnoms. À cause de ses cheveux longs, Richard Roman est l'Indien et Didier Gentil, le tatoué.
Madame, monsieur, bonsoir, vous le savez sûrement maintenant, Didier Gentil dit le tatoué et Richard Roman dit l'Indien sont bien les assassins de la petite Céline.
Les premiers éléments que j'ai perçus, moi, c'est ce que disaient les médias, c'est-à-dire une présentation absolument horrifiante et des faits et des inculpés avec les monstres comme titre de journal, etc. Et il y a eu à ce moment-là une espèce de déferlement médiatique extrêmement violent, extrêmement invraisemblable.
J'ai entendu les propos enflammés des journalistes et j'étais prêt à faire comme tout le monde, c'est-à-dire à croire cette situation. Mais j'ai dit au passage, mais écoutez, ça suffit, vous accusez un homme, je vous rappelle qu'il est actuellement présumé innocent.
48 heures à peine après la découverte du corps de Céline Jourdan, chose rare, une reconstitution est déjà organisée par le procureur de la République. Pour contenir la colère de l'opinion, il sait qu'il faut faire vite. Sur les lieux du crime, devant une caméra de la gendarmerie, on demande aux deux suspects de répéter avec un mannequin ce qu'il s'est passé ce jour-là. Les deux hommes semblent savoir ce qu'ils font. Leurs gestes sont précis.
Dans l'esprit du procureur Wesbuche, c'est un élément absolument déterminant à charge. Et pour lui, le dossier est bouclé dès lors qu'il a d'un côté des aveux, de l'autre une reconstitution à laquelle les inculpés se sont prêtés.
Les deux suspects, Richard Roman, dit l'Indien, et Gentil, surnommé le Tatoué, ont avoué hier soir. Ce matin, à 10h45, les deux hommes sont transférés à la gendarmerie de Digne. Les charges sont lourdes à leur encontre, viol et meurtre avec préméditation.
Des aveux circonstanciés, une reconstitution précise. Pour tout le monde, cela ne fait plus de doute. Didier Gentil et Richard Roman seraient bien les meurtriers de la petite Céline. Pourtant, dans les heures qui suivent, l'affaire va connaître un énorme coup de théâtre. 29 juillet 1988, trois jours après le meurtre de la petite Céline, Richard Roman et Didier Gentil comparaissent devant le juge d'instruction. Ils sont mis en examen pour assassinat, séquestration, viol aggravé avec torture et acte de barbarie. Tandis que Didier Gentil confirme ses aveux, Richard Roman, lui, se rétracte totalement. Maintenant, il affirme qu'il n'a ni violé, ni tué Céline.
Quand il arrive chez le juge d'instruction, il se rétracte, il dit qu'il a avoué sous la pression des enquêteurs, il a avoué sous la menace, que les gendarmes l'ont tapé, que voilà.
L'homme explique qu'il a avoué sous la pression des gendarmes lors de sa garde à vue.
Très rapidement, on apprend quand même qu'un des chefs d'enquête aurait été particulièrement dur avec les mises en examen. On va se rendre compte que les gendarmes avaient des méthodes d'enquête particulièrement poussées.
En garde à vue, l'un est accroché avec des menottes à un radiateur, dénudé. Des interrogatoires très poussés sont menés, telle sorte que Richard Roman va reconnaître sa culpabilité.
Et ce n'est pas tout. Richard Roman affirme même que les gendarmes auraient menti pour le déstabiliser.
Pour faire craquer au bout de 5 heures, Richard Roman, les gendarmes ont dû se servir de subterfuges propres à tous les enquêteurs et lui faire croire qu'on avait trouvé son ADN alors que ça n'existait presque pas à l'époque et on lui a parlé de son pagne avec lequel il était souvent vêtu. En lui disant qu'avec l'ADN, on trouverait.
Après son interrogatoire, Richard Roman retourne à la prison des Baumettes. Pour le moment, seul le juge d'instruction sait qu'il est revenu sur ses aveux et qu'il se dit innocent. Mais l'information ne va pas longtemps rester secrète. Le 23 janvier 1989, Marseille. Aujourd'hui, Denis Trocero, jeune journaliste au quotidien Le Méridional, réalise un reportage sur la prison des Baumettes. Alors qu'il visite l'une des cours, il tombe nez à nez par hasard avec un détenu qu'il reconnaît tout de suite. Il s'agit de Richard Roman.
En visitant le quartier d'isolement, donc, je me rends compte qu'étant promenade, qu'il y a une seule personne qui est en promenade, et je me retrouve face à Richard Roman, dont évidemment j'avais vu des images, je ne l'avais jamais croisé de visu. Hein. Il est seul, il fait très froid, je me souviens, on est au mois de janvier 89. Et donc je m'avance vers lui et j'ai la possibilité de lui parler. Donc. Et je dis à Richard Roman, mais est-ce que je suis journaliste au Méridional, est-ce que vous seriez d'accord pour répondre à mes questions ?
Roman accepte immédiatement. Pour lui, c'est une occasion unique de se défendre et de dire au grand jour qu'il est innocent. C'est alors que le journaliste va faire une découverte de taille.
Quand je lui dis que son crime est particulièrement horrible et comment il le vit, il me dit « Non, non, mais je dois vous dire que j'ai été entendu par le juge d'instruction et que je suis revenu sur mes aveux. » Et c'est à ce moment-là que je le découvre. C'est vraiment la première manifestation d'un revirement de situation dans ce dossier.
Deux jours plus tard, l'article sort. C'est un scoop immense. Et voici ce qu'on peut y lire.
J'ai avoué au terme d'un interrogatoire infernal. À force d'être accusé comme ça, j'ai perdu la raison. Je n'ai pas vu Didier Gentil ce soir-là. Je suis seulement coupable d'avoir accueilli et hébergé Didier.
Cette interview fait l'effet d'une bombe. Aux yeux de la France entière, cet homme était le meurtrier d'une petite fille, et voici qu'il revient sur ses aveux et clame son innocence. Certains commencent à se poser des questions sur la culpabilité de Richard Roman. D'autres sont indignés, à commencer par le père de Céline. Pour lui, la garde à vue de Roman s'est passée tout à fait normalement.
Je ne crois pas que les gendarmes soient capables de faire des choses comme ça, de faire avouer quelqu'un, de faire un truc comme ça si on est innocent, je ne crois pas.
Pour Gilbert Jourdan et une bonne partie des habitants de la Motte du Caire, la culpabilité de Richard Roman est certaine. Alors, quand la justice va organiser une nouvelle reconstitution dans le village, la situation va déraper. Le 16 juin 1989, une seconde reconstitution des faits est organisée dans les rues de la Motte du Caire. Cette fois, en présence des avocats de Richard Roman et de Didier Gentil. Les deux accusés, eux, sont absents, car les autorités craignent que les habitants ne s'en prennent à eux. Ce sont les gendarmes qui jouent le rôle des accusés. L'ambiance est électrique.
Là, au bout d'un moment, mon père il dit « Mais monsieur le juge, c'est pas un gendarme qui a tué ma petite fille, c'est Didier Gentil et Richard Roman. Je veux Didier Gentil et Richard Roman ici. » Et ça a pété comme ça, et puis bon, bagarre générale, et puis voilà quoi.
Sur ces images, on peut voir Gilbert Jourdan, le père de Céline, se précipiter sur les avocats des deux accusés.
Les avocats, c'est-à-dire d'une part Henri Leclerc, mais également Henri Juramé, ont été pris à partie par les familles et par les gens du village.
Et à un moment, c'est parti avec une violence inouïe. Moi d'ailleurs, c'était pas méchant ce qu'ils ont fait. Ils m'ont envoyé une tarte à la crème. Souvent, elles l'envoyaient avec l'assiette. Ce qui fait que je me suis mis à pisser le sang partout. J'ai essayé de m'essuyer. Bon, je sais pas ce que j'ai fait de ma chemise d'ailleurs. J'ai pris des pots de moutarde, des machins. Je saignais, je suis sorti un peu dans des conditions un peu effroyables.
On est dans un engrenage où bon, c'est vrai que des fois, on s'énerve. Mais bon, moi, je regrette rien de toute façon. Moi, je regrette rien de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai dit. Si demain il faut dire la même chose, je le dirai. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir tapé plus fort. Quoi.
Face à ces débordements, la reconstitution est annulée.
Ça va être une journée affreuse, terrible, quoi, qui divisait même la population ici entre eux. Il y a toujours des gens qui sont excessifs. Et puis il y a ceux qui gardent la tête froide et qui disent bon ben ils sont coupables, le jugement interviendra, ils seront punis, quoi, voilà. Et puis il y a ceux qui veulent la sentence immédiate, vous en avez toujours.
Dans les jours qui suivent, une manifestation est même organisée devant la prison des Baumettes à Marseille, où Gentil et Roman sont incarcérés. Les manifestants réclament le rétablissement de la peine de mort. Le débat devient national.
Il faut se souvenir qu'il y a eu à l'époque une pétition qui a couru en France après ce drame pour le rétablissement de la peine de mort qui avait recueilli plus de 500 000 signatures.
Ce dossier Jourdan a focalisé toutes les rancœurs, toutes les haines, toutes les passions familiales, médiatiques, judiciaires.
Dans les médias, Gilbert Jourdan n'hésite pas à tenir des propos extrêmement violents à propos des accusés.
Et maintenant, je m'adresse à Richard et à Didier Gentil. Je te garantis, sur la tête de ma fille, que même dans 30 ans, je te crèverai le ventre. Regarde-moi bien, Gentil, regarde-moi bien, Richard. Je te crèverai le ventre.
Pour Joël Roman, le frère de Richard, ces menaces sont plus qu'éprouvantes.
Il y avait quelque chose qui était extrêmement, extrêmement violent, extrêmement haineux, et puis on reçoit ça. On a tous été quand même très, très démolis psychologiquement à ce moment-là, pendant plusieurs mois.
Avant même leur procès, les deux inculpés sont d'ores et déjà condamnés par l'opinion. Pourtant, un homme va bientôt semer le doute dans les esprits. Juillet 1989, Lionel Duroy, journaliste à l'événement du jeudi, est dépêché à la Motte du Caire pour couvrir l'affaire. Il est intrigué par Roman, ce jeune homme que tout accuse, mais qui continue de crier son innocence. Le journaliste décide alors de se lancer dans une contre-enquête.
J'ai la chance d'être totalement anonyme lorsque j'arrive à la Motte du Caire et que je m'installe à l'hôtel. J'ai ce gros avantage d'avoir avec moi le relevé de toutes les indications qui ont été faites sur le terrain dans les 24 heures.
Lionel Duroy va rencontrer de nombreux témoins et il va s'attacher à reconstituer, minute par minute, l'emploi du temps des deux accusés.
Dans le dossier, dès leur première déposition, tous les villageois accusent Richard Roman. Ce qu'ils ne mesurent pas, et c'est ça qui est intéressant, c'est comme au fond, ils sont très honnêtes, enfin, ils disent vraiment ce qu'ils ont vu, et ils donnent des heures très précises de l'arrivée de Richard Roman à ce café. Les gens qui l'ont vu partir de chez lui donnent aussi des heures à quel moment ils descendent sa colline. Ensuite, on dit à quel moment on le voit arriver sur la place du village. Tout ça est très bien noté dans les toutes premières heures de l'enquête.
Lionel Duroy établit que Richard Roman est chez lui avec sa mère jusqu'à 20h50 le soir du crime. Puis qu'il retrouve un ami au bar à partir de 21h. Il n'a donc disposé que de 10 minutes pour rejoindre Didier Gentil, violer la petite Céline, la tuer et revenir au village. Le journaliste va lui-même refaire ce parcours montre en main. Et il arrive à une conclusion terrible.
Quand on confronte tout ça, on s'aperçoit que matériellement, il n'était pas là, Richard Roman. Il n'a pas le temps. Il ne peut pas être là.
Pour Lionel Duroy, Didier Gentil est l'unique meurtrier de la fillette. Richard Roman, lui, est totalement innocent. Mais cette thèse, le journaliste va être longtemps le seul à la défendre.
J'ai écrit un article en disant pourquoi Richard Roman n'était pas là, et donc pourquoi cet homme est innocent. Mais jamais encore personne n'avait osé le dire. C'est très très compliqué d'oser dire une chose pareille, alors que vous avez la France entière et toute la presse qui dit que ce type est coupable.
Seulement, chose incroyable, malgré ce nouvel élément incontestable, la contre-enquête de Lionel Duroy passe quasiment inaperçue. Et pour cause, la culpabilité de Richard Roman ne fait aucun doute pour l'opinion publique.
Je pense que Richard Roman est un coupable idéal. C'est sa marginalité qui le désigne. Qu'est-ce que c'est que ce type qui est ingénieur agronome et qui va élever des chèvres dans un village? Qu'est-ce que c'est que ce gars dont on sait qu'il pique des puis qu'il fume des joints, dont on a découvert qu'il était plus ou moins homosexuel? Ce gars qui va se balader au village avec un âne.
Il y avait en quelque sorte une pensée dominante, un réflexe dans le monde médiatique.
À partir du moment où l'accusation, où les parties civiles veulent absolument qu'un homme soit coupable, vous pouvez démontrer toutes les preuves matérielles qui l'exonèrent. Non, ça restera lui le coupable.
Pourtant, peu à peu, de nouvelles incohérences dans l'enquête vont être mises à jour. Dans les semaines qui suivent, un nouveau juge est nommé. C'est le 5e juge d'instruction en 2 ans.
Le juge Bonnet, donc, arrive et est le premier à avoir un peu de stabilité. Et donc, il a repris toute l'affaire. Il a entendu, il a repris tous les témoignages, il a réentendu les témoins. Bon, voilà, il a vraiment repris toute l'affaire à fond.
Très vite, le juge Bonnet est interpellé par plusieurs zones d'ombre. À commencer par le comportement du chien policier au moment des battues pour rechercher Céline.
Le maître chien, il a fait sentir l'odeur de Céline à son animal, à son chien. Il est parti du bar et arrivé à l'endroit où Céline est montée dans la voiture, le chien, il aurait dû s'arrêter. Mais le chien ne s'est pas arrêté.
Et si le chien ne s'est pas arrêté, c'est que Céline a forcément marché avec ses ravisseurs jusqu'au lieu du crime. Or, Didier Gentil a toujours affirmé que Céline était montée avec lui dans la voiture de Richard Roman. Le juge se demande donc s'il n'a pas menti. Autre élément qui interpelle le juge Bonnet, ce sont les gestes des accusés au moment de la reconstitution du crime. Tout semble se passer comme si on leur avait dicté leur comportement.
On s'aperçoit que cette reconstitution est une reconstitution complètement bidon, qui est complètement dirigée par les gendarmes et surtout par le procureur Westbuch.
Vous voyez très clairement que le procureur parlait beaucoup, que mon frère ne disait rien, qu'à un moment il lui demande de ramasser une pierre, il ramasse une pierre, le procureur dit non, pas celle-là, et il lui désigne du pied une autre pierre plus volumineuse, et il dit par exemple celle-là. Et à ce moment, mon frère ramasse la pierre et fait mine de jeter la pierre.
Enfin, dernier élément, et peut-être le plus déterminant pour le juge, Richard Roman n'a pas eu le temps matériel, en 10 minutes, de commettre le crime qu'on lui reproche. Ces trois éléments à décharge conduisent le juge Bonnet à se forger une conviction. Richard Roman est innocent. Après plusieurs mois, l'instruction débouche donc sur un incroyable revirement. Le 22 octobre 1990, le juge d'instruction Yves Bonnet convoque la famille Jourdan au palais de justice de Digne-les-Bains. Il a une nouvelle importante à leur annoncer.
On est convoqué au tribunal de Digne. Il y avait mon ex-femme, il y avait mon père, ma mère, moi. Et puis quand on a été dans le cabinet du juge d'instruction, le téléphone sonne. Et à ce moment-là, il dit oui, c'est bon, ils sont là, vous pouvez y aller. Ça voulait dire qu'on était là, il pouvait lâcher Romain qui était au bon maître.
Le juge explique alors à la famille Jourdan qu'il a décidé de libérer Richard Roman, faute d'éléments à charge contre lui.
Alors même que tout le monde est convaincu de la culpabilité de Roman, malgré ses aveux rétractés, Bonnet va le remettre en liberté et Bonnet l'assume.
Tandis que Richard Roman retrouve sa liberté, dans le bureau du juge d'instruction, la famille de Céline explose.
On a poussé le bureau, on a coincé contre le mur, parce qu'on y mettait des carottes, on pétait les plombs.
La mère de Céline Jourdan est abattue, son oncle ne contient plus sa révolte, tandis que son grand-père laisse exploser sa colère devant les caméras. Mais envers et contre tous, le juge Bonnet reste ferme sur sa position. Richard Roman bénéficie d'un non-lieu après plus de 2 ans de détention provisoire. Didier Gentil demeure à cet instant le seul violeur et assassin présumé de la petite Céline Jourdan. Un complément d'information est diligenté et l'on découvre que l'enquête est émaillée de nombreux dysfonctionnements.
Ça nous avait énormément surpris, je dois vous le dire, parce que on avait le sentiment que toutes les pistes n'avaient pas été explorées.
Il faut se rappeler que, et les gendarmes, et le procureur de la République à l'époque, Paul Westbuch, étaient tellement persuadés, à cause des aveux, que l'affaire était bouclée pour eux, qu'il n'y aurait pas de problème, qu'ils ont sûrement négligé les uns et les autres des choses à faire pendant cette enquête. On a oublié de récolter sur les lieux les mégots, car tous les deux disaient qu'ils avaient fumé du hash. On n'a pas cherché à trouver les empreintes sur les bouteilles de bière qu'ils disaient tous les deux avoir bu sur place. On n'a pas cherché sous les ongles de la fillette des traces éventuellement, car elle s'est débattue, la pauvre, elle a dû griffer ses agresseurs. On n'a pas cherché ça.
La décision de remettre en liberté Richard Roman, à l'époque, est pour le moins inattendue. Elle divise. Sous la pression de la famille de la petite Céline, le procureur fait appel de la décision du juge et obtient gain de cause. Richard Roman sera bel et bien jugé en cour d'assises. En attendant son procès, l'homme aurait dû rester en liberté, mais les événements vont en décider autrement. « 24 décembre 1990. En cette veille de Noël, Richard Roman profite de sa liberté et se balade dans les rues d'Annecy, où il est hébergé chez sa mère. Au moment de rentrer dans le hall de son immeuble, il est violemment passé à tabac par deux hommes. Richard Roman dira ensuite qu'il a reconnu l'un de ses agresseurs. Il s'agirait de Gilbert Jourdan, le père de la petite Céline.
Richard Roman se fait agresser à Annecy et puis il dit que c'est moi, quoi. Il m'accuse. Donc il me voit partout, quoi. Tellement il est innocent, il me voit partout. Bon, voilà. Mais bon, c'est pas moi.
Les agresseurs de Richard Roman n'ont jamais été identifiés. Mais l'événement va avoir une conséquence directe. Pour éviter tout trouble de l'ordre public et pour sa propre sécurité, le 26 avril 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence décide de placer à nouveau Richard Roman en détention. Après seulement 6 mois de liberté, c'est la douche froide pour le jeune homme qui doit retourner derrière les barreaux.
Il y a eu une audience pour procéder à sa réincarcération. Et donc il s'est rendu librement à l'audience. Pour lui, c'était quand même quelque chose d'extrêmement dur. Se dire, je repars en prison pour un temps indéfini, sans savoir comment cette affaire va finir par tourner, etc.
Pour la famille de la petite Céline, c'est une énorme satisfaction. Et pourtant, de plus en plus de Français commencent à s'interroger. Richard Roman serait-il victime de l'une des plus grandes erreurs judiciaires de la décennie ?
Très vite, on s'est aperçu que on n'allait pas oublier Céline, surtout pas sa famille, mais que ça se transformait effectivement en affaire Roman.
Richard Roman est-il coupable ? Cette question tient la France entière en haleine. Seul le procès qui approche permettra d'apporter une réponse. 30 novembre 1992. 4 ans et demi après le drame, le procès des deux assassins présumés s'ouvre enfin devant la cour d'assises de l'Isère. Un procès sous très haute tension. Les mesures de sécurité sont maximales. La famille de Céline fait poser à l'entrée du palais de justice un portrait de la petite fille. Pour les avocats des accusés, la tâche s'annonce particulièrement difficile.
Quand on arrive au palais de justice de Grenoble et qu'il y a tous les jours la photo de la petite, cette petite qui lui manquait deux dents. Et là, pour moi, c'était les deux dents qui manquaient, qui me bouleversaient à chaque fois. Et indépendamment des cris d'hostilité, c'est quand même terrible, quoi, d'être là et d'avoir l'impression, de donner l'impression que l'on est contre la petite fille. C'est terrible.
Les avocats veulent paraître dans des grands procès. Aucun d'eux n'est insensible à la détresse des parents d'une enfant qui a été tuée.
À 9h, la salle d'audience est comble. Les accusés entrent dans le box.
Didier Gentil était sur la même ligne de conduite que celle qu'il avait adoptée depuis le début de la procédure, c'est-à-dire je disparais, moins on me voit, moins on me remarque et mieux ça vaut. Quant à Richard Roman, on lui avait suggéré bien sûr de faire propre sur lui, de se présenter bien, le mieux possible pour le procès, pas du tout. Il est venu comme il était, comme il avait toujours été, c'est-à-dire avec son catogan et ses cheveux attachés sur la nuque, un espèce de gros pull en laine. Normal.
Les débats débutent par la lecture des résultats de l'autopsie de la petite Céline.
Le président de la cour d'assises a dit qu'on allait aborder les expertises médico-légales, c'est-à-dire le détail de ce qu'avait subi cette petite fille. Et il a proposé à la mère de Céline de sortir de la salle et de ne pas assister à cela. La mère de Céline a voulu rester justement parce qu'elle ne savait rien.
Mais à l'énoncé des détails du calvaire de Céline, la mère de la fillette craque.
Elle a présumé de ce qu'elle pouvait supporter, bien sûr. Elle est sortie, elle a eu un malaise. Et un peu plus tard, c'est Gilbert Jourdan qui a dû quitter la salle lui aussi, et il était lui aussi en proie à un malaise.
L'implication dans le crime de Didier Gentil ne fait aucun doute. Mais il n'en est pas de même pour Richard Roman. Tout l'enjeu du procès va donc être de savoir s'il a participé au viol et au meurtre de la petite Céline. D'abord, la cour va étudier son alibi. Souvenez-vous, avant 20h50, Richard Roman se trouvait avec sa mère. Après 21h, il a été vu au bar de la Motte du Caire. 10 minutes dans son emploi du temps qui pose question, car en si peu de temps, il ne peut pas avoir commis le crime. Mais à la barre, plusieurs témoins vont revenir sur leur déclaration. Ce n'est plus à 21h qu'ils ont vu Richard Roman au bar, mais à 20h.
Tous les témoins avaient changé d'heure. Alors qu'auparavant, là, ils disaient tous exactement la même chose. Et ils avaient tous changé d'heure, d'une heure à peu près, leur témoignage. Et ils concordaient complètement.
Mais ce revirement de la part des témoins semble suspect.
Par la suite, pour arriver à l'accabler, certains témoins vont changer les heures. Parce qu'ils s'aperçoivent que la première heure qu'ils ont donnée, les premiers horaires qu'ils ont donnés, innocente en fait, Richard Roman.
Persuadé que Richard Roman est coupable, ces témoins auraient-ils pu mentir à la cour d'assises ? Soupçonnés de parti pris, ils apparaissent en tout cas de moins en moins crédibles aux yeux des jurés. Toutefois, il reste un élément pour accuser Richard Roman, c'est la déposition de Didier Gentil. Mais un événement totalement improbable va faire basculer le procès. 11 décembre 1992, le procès a commencé depuis 2 semaines. Ce matin-là, Didier Gentil se penche à l'oreille de son avocat. Il a une demande pour le moins inattendue.
Il me dit « Voilà, je vais dire ce qui s'est passé. Et en fait, je pense que je dois dire les choses telles qu'elles se sont faites. » Donc je lui dis « Je vais donc demander au président qu'il vous passe la parole. » Moi, je suis debout, Didier Gentil est juste derrière. Et Gentil, avec sa manière de s'exprimer, va dire ce que ceux qui étaient présents ont parfaitement entendu avec ces mots.
Alors, Didier Gentil se lève, il dit « Voilà, je viens de discuter avec mon avocat, j'ai peut-être rêvé, j'étais peut-être tout seul. Je demande pardon aux parents de Céline, à Céline et à Richard Roman. » Et il s'est assis.
Gentil s'est exprimé, il a libéré sa conscience. Et j'étais bien placé, moi, pour savoir ce qu'il en était et que c'était sérieux et sincère. Bon, mieux vaut exposer les choses telles qu'elles sont et que si Richard Roman a avoué sous la contrainte en garde à vue, mais Didier Gentil, lui, a dénoncé sous la contrainte en garde à vue.
Madame, Monsieur, bonsoir. Spectaculaire rebondissement, je vous le disais, au procès des meurtriers présumés de la petite Céline. À quelques jours du verdict, Didier Gentil a en effet craqué. Il a endossé pratiquement seul la responsabilité du viol et du meurtre de la petite fille.
Ivre de rage face à ce témoignage qui innocente Roman, Gilbert Jourdan quitte la salle et menace les proches de l'accusé.
Le premier comité de soutien qui sort, je l'incarne. Je vous préviens. Ne laissez sortir personne, je l'incarne.
En revanche, du côté de la défense, c'est un nouvel espoir.
C'est un moment d'intense émotion, vous vous rendez compte, quand on se bat depuis 4 ans sur ça, avec une impression d'isolement.
D'ailleurs, chose rare, même l'avocat général Legrand, qui jusqu'à présent réclamait la condamnation des deux accusés, va changer de position.
Alors que le procès est en train de se dérouler, l'avocat général Legrand va basculer à son tour et va requérir l'acquittement. Ce sont des scénarios judiciaires auxquels on assiste relativement peu de nos jours.
Et pourtant, à quelques heures du verdict, une majorité de l'opinion publique reste persuadée de la culpabilité de Richard Roman.
Il y a eu cet épisode de Paris Match qui avait demandé un espèce de sondage express par Minitel. Richard Roman était coupable, oui, non, répondait par Minitel. Évidemment, il était coupable à 90%.
Qui les jurés vont-ils suivre ? L'opinion publique ou les avocats ? Le 17 décembre 1992, après 5 heures de délibéré, preuve que le jury s'est forgé une conviction rapidement, le verdict tant attendu tombe. Didier Gentil est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 28 ans pour le viol suivi du meurtre de Céline Jourdan. Richard Roman, pour sa part, est acquitté. L'homme est libre et improvise une conférence de presse à sa sortie de prison.
Richard, je vais simplement dire que c'est la fin d'un désastre judiciaire. Je remercie le comité de soutien et toutes les personnes qui m'ont aidé.
Comment vous espérez un jour pouvoir convaincre les parents de Céline ?
Je crois que c'est à leurs avocats d'être courageux et de leur dire la vérité.
Aujourd'hui encore, 23 ans après, le père de Céline Jourdan reste persuadé que Didier Gentil et Richard Roman ont tué sa fille.
L'affaire Céline, c'est une affaire qui ne sera jamais élucidée. Pour eux, elle est élucidée, mais pas pour moi. Moi, j'ai ma conviction. Je sais que c'est Didier Gentil qui a violé, c'est Richard Roman qui a tué. Et voilà, et tous ceux qui le défendent aujourd'hui, ils étaient où le soir du 26 juillet ?
Ce que je trouve horrible, en fait, c'est que la justice n'ait pas pu convaincre les parents de l'innocence de Roman. Ça, c'est vraiment une catastrophe, quoi.
Après sa libération, Richard Roman a repris sa vie marginale. En 2008, âgé de 49 ans, il meurt suite à une overdose de médicaments. Suicide ? Personne ne le saura jamais. Didier Gentil, pour sa part, est toujours incarcéré à la prison des Baumettes. Il ne devrait pas sortir de prison avant 2016.